France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre pour le dernier épisode de cette semaine de l'histoire de l'Orchestre National. J'en étais arrivé au début des années 80, période de grand renouveau. On tire les premiers bénéfices de l'engagement de tous ces nouveaux musiciens arrivés à la fin des années 70 et qui permettent un tuilage harmonieux avec les anciens. J'aimerais souligner l'importance de deux femmes exceptionnelles, Liliane Béguin-Rossi, qui sera un rock au poste de chef d'attaque des seconds violons, et à ses côté Michel Boussineau, une élève de David Oistrakh, qui fera régulièrement l'intérim comme premier violon solo dans les périodes de transition. Par exemple, c'est elle qu'on voit dans les vidéos avec Bernstein. Ici, on l'écoute dans le début de la danse macabre de Saint-Saëns. C'est Georges Prêtre qui dirige. Michel Boussineau, soliste de la danse macabre. J'ai surtout parlé des cordes, mais les vents aussi ont leur grand renouvellement. Au corps, voici Michel Cantin et son jeu tout en finesse, rejoint par André Gantier, qui monte du troisième au premier corps, avec lui un jeu tout en rondeur, et pour chacun, le son correspond au physique. À la trompette, c'est l'exceptionnel Yves Coueffé, venu du Philharmonique, et à la harpe, la brillante Frédéric Cambrelin, à la flûte, pour succéder à Fernand Dufresne après une courte période Alain Marion, eh bien c'est l'arrivée, je citais son nom tout à l'heure, d'un jeune blond de 21 ans dont la sonorité rayonnante fascine les chefs comme le public. C'est Patrick Gallois qui sera flûte solo emblématique du National entre 1977 et 84, avec à ses côtés Jean-Louis Beaumadier, le virtuose du piccolo. Il fallait en choisir un, j'ai voulu en distinguer un qu'on a peut-être un peu oublié, car c'était un homme discret et humble, c'est le hautbois solo Michel Croquenois. C'est lui qui était là quand j'ai commencé à aller au concert, et je le revois encore, position très spécifique, la nuque pliée vers l'avant. Mais l'important, c'est sa belle musicalité, comme ici dans la troisième gymnopédie de Satie.
Thank you.
très beau disque de musique française de l'Orchestre National dirigé par Georges Prêtre en 87 et dont les deux Marie, Marie Gros et Marie Lepeintre, s'accordaient pour reconnaître la très belle prise de son. Ici, c'était la troisième gymnopédie de Satie orchestrée par Debussy, permettant d'apprécier le hautbois solo de l'Orchestre National des années 80, Michel Croquenois. Du nouveau aussi côté chef, toujours grâce à l'ambition du directeur de la musique d'alors, Pierre Voslinski, et c'est aussi l'occasion de continuer à élargir le répertoire. À cette époque, croyez-le ou non, Bruckner est encore un quasi inconnu en France, et pour guider l'Orchestre National dans la grande architecture de la 7e symphonie, on fait appel en février 80 au plus grand, Eugen Jochum, 78 ans, concert absolument exceptionnel qu'on peut voir sur YouTube. C'est un document émouvant où on voit quelque chose de rare. À la fin, tout le monde éclate en applaudissements. Et quand je dis tout le monde, c'est le public, mais aussi l'orchestre qui applaudit le chef. Alors non pas en tapotant de l'archet le bout des pupitres, mais en tapant dans les mains. Jochum commence à sourire, puis fait signe à l'orchestre de se lever. Mais rien à faire, Patrice Fontanarosa refuse et continue à applaudir le chef qui, pour se donner une contenance, se met à applaudir l'orchestre à son tour. C'est aussi un document émouvant, car on voit tous les visages des musiciens de l'époque, anciens et nouveaux, et si vous regardez bien les violoncelles, au deuxième pupitre, un monsieur de belle allure, avec les cheveux poivre et sel, le front dégagé, une moustache élégante, c'est Jean Groux, le papa de notre réalisatrice Marie Groux. j'ai choisi cet adagio de la 7e symphonie de Bruckner par Jochum. Bon, d'abord parce que c'est un des plus grands concerts de l'Orchestre National, 6 février 1980, mais aussi pour rappeler que cette musique qui joue sur la longueur de son, d'archet, de souffle, était un terrain à découvrir pour un orchestre plus familier des couleurs vives et de la transparence de Ravel et Debussy, par exemple. Jochum, vous le voyez, a été un excellent précepteur. L'autre grand monument du post-romantisme germanique, c'est bien sûr Gustav Mahler. Je vous ai parlé de quelques pionniers qui ont défriché le terrain dans les années 60. Horenstein, Sébastien, Martinon. Il est temps maintenant de le faire vraiment entrer au répertoire. Dans les années 80, le premier cycle Mahler de l'histoire de l'Orchestre National est confié à un grand spécialiste de cette musique, le chef tchèque Václav Neumann, alors directeur musical de la Philharmonie tchèque. Le cycle commence en 84 avec la première symphonie, puis arrive ce 21 février 1985 pour la monumentale troisième. Bon, tout le monde s'en fiche, mais j'étais là, quelques jours avant mes 21 ans, au premier rang du Théâtre des Champs-Élysées, et j'en ai encore la chair de poule.
Thank you.
Il a initié l'Orchestre national à la musique de Mahler dans les années 80, Václav Neumann, ici dans le début de l'immense troisième symphonie, 21 février 1985 au Théâtre des Champs-Élysées. Au même moment, Laurine Mazel est toujours là, notamment pour de grandes opérations comme le Requiem de Berlioz à Bercy en 84, année où il enregistre avec l'Orchestre national la bande originale de Carmen, le film de Francesco Rosi avec Julia Migenes. C'était alors la vogue des films opéra produits par Daniel Toscan du Plantier. Le 6 février 1980, ce sont les débuts à la tête de l'Orchestre national d'un Napolitain de 38 ans qui commence à faire beaucoup parler de lui, Riccardo Muti, qui devient dès le premier jour un des chefs préférés de l'orchestre. Il l'est encore aujourd'hui à 82 ans. Et puis, les fidèles reviennent, à commencer par l'ébouriffant Seiji Ozawa, dont je vous avais fait entendre les débuts l'autre fois. Il est désormais dans la force de l'âge. L'orchestre se surpasse à chaque fois avec lui, notamment alors pour les deuxièmes, troisièmes, huitièmes de Mahler, les mastodontes, à la basilique de Saint-Denis, où l'orchestre prend désormais l'habitude de se produire une fois par an. Et puis, le 22 juin 85, au Théâtre des Champs-Élysées, Ozawa envoûte l'orchestre et le public dans un programme français. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est l'émission Madeleine de Proust, j'y étais là aussi, et les frissons sont toujours là quand on réécoute la valse de Ravel. avec cette interprétation étourdissante de la valse de Ravel par Ozawa et l'Orchestre National capté par France Musique le 22 juin 1985 s'achève ce troisième volet de l'histoire d'un orchestre qui fête ses 90 ans. Un grand merci à Marie Groux à la réalisation, Marie Le Peintre au mixage, à Soizic Noël qui vous met toutes les informations nécessaires sur la page internet, sans oublier Aude Vassan pour les documents INA. Rendez-vous la semaine prochaine, cette fois pour une nouvelle série de 4 chefs oubliés. Merci de votre écoute et à très bientôt sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.